Chapitre 25. Le chapitre 25 des Actes, vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 25 des Actes n'est pas un document qui consigne des procédures administratives complexes ou le processus d'appel. Ce chapitre montre comment l'évangile déjà accompli de l'eau et de l'esprit préserve sa pureté et avance vers une scène de témoignage plus vaste, même au milieu de la pression massive des compromis, des retards et des tractations politiques. À travers les pas de Paul, il témoigne clairement de ce que choisit une personne qui possède l'évangile, où le problème du péché a déjà pris fin, et comment elle avance au sein d'une structure injuste. Actes, chapitre 25, versets 1 à 5. Le remplacement du gouverneur, sur la réalité des opposants à l'évangile qui ne s'arrêtent pas même avec le changement de pouvoir. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent de plaintes contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent, comme une faveur, qu'il le fît venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » 3 jours après que Festus arrive en tant que gouverneur, il monte de Césarée à Jérusalem et les principaux sacrificateurs et les principaux des Juifs accusent Paul. Ils adressent une pétition à Festus et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fit venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Bien que le sujet du pouvoir ait changé, l'hostilité du système religieux essayant d'éliminer la nouvelle du salut accompli n'a pas changé d'un iota. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit nie le mérite humain, il subit toujours des attaques aussi persistantes et systématiques de la part des puissances mondaines essayant d'établir leur propre justice. Actes, chapitre 25, versets 6 à 12, le procès devant Festus, sur l'assurance juridique dont jouit celui dont la condamnation a pris fin. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. » Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Lorsque Festus s'assied sur le tribunal à Césarée et commande qu'on amène Paul, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses et graves plaintes, mais ne peuvent en présenter les preuves. À cela, Paul affirme « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Une telle assurance de Paul ne provenait pas de ses compétences juridiques, mais trouvait son origine dans la conviction de la foi que toute condamnation a déjà pris fin par le baptême et la croix de Jésus. Il a dit « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. » Et plutôt que d'essayer de prolonger sa vie par un compromis injuste, il a choisi la confiance de l'évangile accompli. D'Actes, chapitre 25, versets 11 à 12, l'appel à César, sur la décision vers l'expansion de la mission au-delà de la fuite. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Lorsque Festus demande à Paul s'il est prêt à monter à Jérusalem et à y être jugé afin de s'attirer la faveur des Juifs, Paul déclare « J'en appelle à César ». Cet appel n'était pas simplement une ruse pour éviter la mort, mais un choix stratégique pour faire en sorte que l'Évangile soit témoigné sur une scène plus vaste et plus publique appelée Rome, sans être confiné au cadre religieux appelé Jérusalem. c'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne se cache pas devant les menaces, mais désire plutôt être révélé et propagé sous une lumière plus vive. Actes chapitre 25, versets 13 à 22, la confusion de Festus, sur le pouvoir mondain qui n'a aucune norme pour décider même après avoir vu la vérité. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte, en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul en ayant appelé, pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. »« Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Lorsque le roi Agrippa et Bérénice viennent à Césarée pour saluer Festus, Festus mentionne le cas de Paul et dit, « Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. » Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Même si Festus n'a trouvé aucune preuve de crime chez Paul, il ne peut pas le relâcher en raison de calculs politiques. Cela révèle clairement la limite du pouvoir mondain qui a la capacité de discerner la vérité, mais n'a aucune norme pour prendre une décision devant l'évangile de vie. Actes chapitre 25, versets 23 à 27, l'introduction devant Agrippa sur le fait d'attirer l'attention vers la résurrection, c'est-à-dire l'événement de l'achèvement de l'expiation. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » Le lendemain, Agrippa et Bérénice viennent en grande pompe et entrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Et Paul est amené. Festus présente Paul et dit que, puisqu'il n'a pas de matériel approprié pour un appel, il l'a placé devant eux pour voir quoi écrire après l'avoir examiné. Au cœur de tous les tourbillons politiques d'Acte 25 se trouve finalement l'événement de la résurrection. Un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Le fait du salut, qui est passé par le baptême et la croix de Jésus et a été confirmé par la résurrection, est un puzzle difficile à comprendre pour le pouvoir mondain, mais pour l'apôtre, c'était la seule réalité de vie qui devait être témoignée. En conclusion, le chapitre 25 des Actes témoigne que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est jamais endommagé, mais préservé même au milieu des tactiques dilatoires et des tractations politiques du monde. Celui qui possède le salut accompli choisit le siège du témoignage public pour la mission plutôt qu'une libération injuste, et Dieu utilise même les procédures administratives et les réunions de ceux qui sont au pouvoir comme des outils pour déplacer l'évangile vers le centre du monde. Le fait que l'évangile désire être témoigné sur une scène plus lumineuse plutôt que de s'installer dans un endroit confortable est la méthode historique du salut qui transperce le chapitre 25 des Actes. Un sermon de Paul Sejong. La parole du chapitre 25 des Actes, versets 1 à 27, est un récit montrant comment sa vérité est révélée lorsque l'évangile est placé entre les calculs politiques et les complots religieux. En lisant ce texte du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Si-jong, l'appel de Paul et la perplexité des gouverneurs se révèlent non pas comme une simple question de compétence judiciaire, mais comme un événement prouvant que le salut accompli dépasse la compréhension humaine. Dès que Festus est arrivé comme gouverneur, les chefs juifs lui ont rendu visite et ont de nouveau accusé Paul, demandant à le transférer à Jérusalem, mais c'était parce qu'ils avaient l'intention de lui tendre un guet-apens sur la route et de le tuer. La raison pour laquelle l'essence de l'accusation ne change pas même si le gouverneur change n'est pas à cause des actes de Paul, mais à cause de l'évangile qu'il prêche. Et parce que la déclaration selon laquelle le péché a déjà pris fin par le ministère de Christ devient toujours une menace pour le système religieux qui a géré le péché par la loi. Festus, voulant s'attirer la faveur des Juifs, a demandé à Paul s'il était prêt à monter à Jérusalem et à y être jugé. Mais Paul a répondu en disant « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé, et j'en appelle à César. » Cet appel n'était pas une fuite face à la tribulation, mais une décision de foi déplaçant la scène du témoignage vers une place plus vaste, appelée Rome. Paul était convaincu que cet évangile, selon lequel Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit en rend témoignage, est une vérité publique qui ne peut être confinée à un procès dans une région spécifique. Lorsque le roi Agrippa a rendu visite à Festus, Festus a mentionné le cas de Paul et a exprimé sa perplexité, disant que lorsque les accusateurs se sont levés, ils n'ont porté aucune accusation de tels actes mauvais qu'ils supposaient, mais avaient seulement des questions contre lui concernant leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus, qui était mort et que Paul affirmait être vivant. Ici, le cœur du texte est révélé, et la question que le monde ne comprend pas est exactement le problème de la résurrection, à savoir si Jésus est vivant. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit proclame que cette justice a été confirmée par sa résurrection, après que Jésus a porté nos péchés par le baptême au fleuve Jourdain et a reçu le jugement sur la croix, le tribunal mondain qui ne connaît pas la résurrection en vient à perdre le langage pour expliquer cela. Festus a essayé de réduire cette question à leurs propres problèmes religieux, mais l'évangile ne reste jamais comme un goût personnel ou une foi privée. Parce que l'évangile est la réponse décisive de Dieu au problème universel de l'humanité appelé péché et mort, il sort toujours au tribunal et sur la place publique et fait ses preuves. Lorsque le roi Agrippa et Bérénice sont venus en grande pompe et sont entrés dans la salle d'audience, Festus a fait avancer Paul et a confirmé une fois de plus qu'il n'avait rien trouvé en lui qui mérite la mort, même si les Juifs criaient qu'il était un homme qui ne devait plus vivre. Festus, l'ayant fait examiner devant le roi Agrippa pour constituer un dossier d'appel afin d'envoyer Paul à César, a confessé qu'il n'avait aucune accusation appropriée à envoyer à l'empereur et a dit « car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse ». C'est exactement le paradoxe de l'évangile. Et c'est dans la même logique que Jésus, qui est sans péché, a mis fin à tous nos péchés en marchant sur le chemin d'un pécheur. Paul se dirige vers Rome lié tout en étant innocent, mais même les chaînes qui le lient ne peuvent arrêter l'avancée de l'évangile. Et bien qu'une personne puisse être emprisonnée, la parole de Dieu sort librement. En conclusion, le chapitre 25 des Actes nous demande si nous confinons l'évangile simplement dans le cadre d'une religion gérable ou si nous en témoignons comme la réalité du salut accompli. Devant cet évangile de l'eau et de l'esprit, selon lequel Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement sur la croix, et que le Saint-Esprit le confirme. Le pouvoir n'a pas d'autre choix que de reporter le jugement, et le système perd son explication. Comme Paul, qui n'avait aucune accusation avec laquelle être envoyé, mais avait l'évangile à prêcher qui était si clair, nous devons nous aussi vivre une vie proclamant avec assurance la véracité publique du salut déjà accompli plutôt que de chercher la compréhension du monde. Questions et réponses sur le chapitre 25 des Actes. Première. De qui est le cœur lorsqu'un évangéliste qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit désire que cette parole de l'évangile soit propagée dans n'importe quelle situation? Le cœur de l'évangéliste qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit va au-delà du simple zèle religieux et est plein du désespoir et de la conviction que seul celui qui a confirmé l'amour juste de Dieu envers l'humanité peut avoir. Un évangéliste est une personne qui croit avec le cœur au fait légal selon lequel Jésus a parfaitement pris sur lui tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et a mis fin à la punition de ses péchés transférés sur la croix. Par conséquent, lorsqu'il voit des âmes qui souffrent encore de leurs propres problèmes de péché ou qui essaient d'obtenir le salut par leurs propres actes, il ressent une pitié semblable à celle de voir une personne qui souffre encore du recouvrement de dettes alors que la dette a déjà été entièrement payée. Ce cœur de compassion devient le motif le plus puissant poussant l'évangéliste à propager l'évangile dans n'importe quelle situation. De plus, le cœur de l'évangéliste possède une assurance qui donne la priorité à la valeur de l'évangile sur son propre environnement. Tout comme l'apôtre Paul a prêché l'évangile au gouverneur et au roi romain même lorsqu'il était emprisonné, un véritable évangéliste interprète même la tribulation ou la persécution comme une scène spéciale préparée par Dieu pour prêcher l'évangile. Il craint davantage que l'évangile de vie ne parvienne pas à être délivré à une âme que de recevoir lui-même des critiques ou de subir des tribulations, parce qu'il est déjà devenu une personne juste par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et a obtenu la vie éternelle, les menaces de ce monde ne peuvent plus l'arrêter. Pour l'évangéliste, toutes les rencontres et les situations ne se présentent pas comme une coïncidence, mais comme des opportunités saintes conçues pour propager la justice de Dieu. En fin de compte, le cœur de l'évangéliste est un état où la responsabilité et la joie en tant qu'ambassadeur de Christ coexistent. Il ressent de la fierté du fait qu'il ne prêche pas en possédant lui-même une grande capacité, mais qu'il est un messager qui délivre honnêtement la nouvelle du salut parfait appelé l'eau et l'esprit que Dieu a déjà accompli. Dans le cœur de l'évangéliste qui proclame « Si les péchés d'un pécheur comme moi ont été purifiés par le baptême et le sang de Jésus, tes péchés ont aussi naturellement été résolus. La joie du ciel qui sera expérimentée lorsqu'une âme sera déplacée des ténèbres à la lumière et goûtée à l'avance. Parce qu'il y a une telle joie, l'évangéliste, que ce soit en temps opportun ou à contre-temps, cède volontiers sa vie entière comme un canal de l'évangile. Deuxième. Sur la façon dont ce cœur de l'évangéliste apparaît comme des actions concrètes et des fruits dans le domaine réel de nos vies. Le cœur de l'évangéliste qui embrasse l'évangile de l'eau et de l'esprit apparaît dans le domaine réel de la vie comme l'action de réinterpréter la réalité du point de vue de l'évangile. Dans le domaine de la vie quotidienne, l'évangéliste n'est pas simplement une personne qui vit gentiment, mais face aux fautes et aux péchés des autres. Il applique d'abord la perspective évangélique selon laquelle Jésus a déjà ôté ses péchés également par son baptême. Cette action arrête le jugement ou la condamnation humaine et conduit à la pratique concrète de délivrer la nouvelle de paix à l'autre personne selon laquelle tes péchés ont déjà été transférés à Jésus et résolus. La raison pour laquelle l'évangéliste peut maintenir son sang-froid et devenir un instrument de paix même au milieu des conflits au travail ou de la discorde au sein de la famille est parce qu'il a confiance que la justice de Dieu déjà accomplie, plutôt que ses propres émotions, préside à tout l'ordre de la vie. L'œuvre dynamique du Saint-Esprit apparaît comme un fruit visible lorsque l'évangéliste fait bon usage de tous les points de contact de la vie comme des opportunités pour l'évangile. Quel que soit le sujet de conversation, l'évangéliste le relie finalement au problème de la soif fondamentale et du péché de l'humain et présente naturellement l'évangile de l'eau, qui est l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, et le baptême de Jésus. Le fruit concret qui apparaît à ce moment-là n'est pas simplement une augmentation du nombre de membres de l'Église, mais la véritable nouvelle naissance obtenue lorsqu'une âme qui a vécu opprimée sous la culpabilité du péché toute sa vie réalise « Ah, tous mes péchés ont vraiment été transmis à Jésus ». La restauration de cette seule âme devient un catalyseur qui répand l'influence de l'Évangile à l'ensemble de la communauté environnante. Et dans ce processus, l'évangéliste goûte une joie et un accomplissement spirituel que le monde ne peut pas donner. En fin de compte, le plus grand fruit porté dans la vie de l'évangéliste est la reproduction de l'évangile. Un cercle vertueux se produit où une personne qui est devenue juste par l'évangile de l'eau et de l'esprit conduit une autre personne sur le chemin du juste. Et cette personne devient à son tour un témoin de l'évangile. L'évangéliste n'attend pas que son éloquence ou son environnement devienne parfait, mais ouvre ses lèvres en s'appuyant sur le sceau du Saint-Esprit à l'endroit même où il se tient en ce moment. Ce processus dynamique fait de nous non pas des croyants stagnants, mais des protagonistes vivants participant au drame du salut de Dieu qui œuvre de manière nouvelle chaque jour.